Xavier Noiret-Homère. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que c'est un grand moment aujourd'hui, puisque ça a été un travail que vous avez commencé depuis presque une année. Et c'est vrai que vous étiez venu ici voir les lieux, puis vous avez été invité à la Villa Médicis, où vous avez produit toutes les œuvres. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail depuis le moment où j'avais découvert la peinture, enfin votre peinture dans votre atelier et le travail à la Villa Médicis. C'est vrai que c'est une exposition un peu statement. On y voit quatre formats différents qui déclinent neuf typologies. Enfin, c'est vraiment, il y a une justesse dans ce travail. Je dois dire que c'est tous les gens qui ont pu voir l'exposition avant l'ouverture sont assez étonnés. Et tout ça décliné sous les quelques notes que Eric Satie nous livre avec les vexations et des œuvres de certains artistes que vous avez invités. Michel François, Bruno Di Rosa et Robert Suermont. On les entendra tout à l'heure parler de leur travail. Pour le moment, j'avais envie de vous demander un petit peu comment l'élaboration de ce travail s'était faite, parce que c'est quelque chose. On sent que c'est un travail mûrement réfléchi.
Ouais. En fait, je crois que ce travail-là, même si, comme tu le dis, comme vous le dites, c'est un statement. Il y avait déjà dans mon approche, l'approche de ma peinture, cette envie de prospecter et de chercher à fouiller un peu dans l'histoire de la modernité et d'essayer d'un peu décanter toutes ces avancées fulgurantes qu'ont pu faire tous les modernes de la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant. Il y a eu énormément de transformations dans l'histoire de l'art et notamment dans l'histoire du tableau, dans l'histoire de la peinture. Je ne vais pas vous épargner la longue liste des avancées significatives qu'ont pu produire les artistes de tous les pays, de toutes les générations et de toutes les époques. Mais c'est vrai que dans la dernière exposition que j'avais pu faire avant celle de Friart, une exposition de groupe, mais où j'avais un grand mur de 40 mètres au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, c'était déjà la volonté non pas de déstabiliser le regardeur ou le public ou l'autre, je ne sais pas comment on doit le nommer, parce que sur une ligne de 40 mètres, j'avais mis 17 tableaux où quelques typologies se croisaient et se fréquentaient, des monochromes, des tableaux plus expressionnistes, comme des palimpsestes, parce qu'il y a des espèces de superpositions de signes et d'images qui apparaissent, des vanités. Ici, quand vous m'avez proposé d'investir Friart, les lieux de Friart, c'est vrai que j'ai trouvé intéressant de rejouer un peu cette partition pour faire un peu l'écho à la musique de Satie, comme vous l'avez dit, en utilisant ces neuf, mettant en place ces neuf typologies déclinées en quatre formats. Au départ, j'ai pas décidé, ça s'est fait très empiriquement. Je me suis pas dit il va y avoir telle typologie. C'est pas un programme précis, c'est un programme qui s'est fait. C'est un travail qui s'est fait très, très empiriquement quand je suis arrivé effectivement à Rome. J'avais en tête les lieux, j'avais en tête l'exposition et j'ai commencé à travailler sur des petits formats. Et puis sont nés tranquillement, c'est donc la série des pique-niques, la série des chromos, la série des Freddy, la série des couleurs, la série des Giardini, la série des étoiles, la série des autoportraits avec accessoires, j'en oublie. Et ces tableaux-là, voilà, ont commencé à se préciser. Et c'est vrai que la chance que vous nous avez donnée, parce que c'est, je dis nous, parce qu'il y a aussi les trois autres interventions et les trois autres intervenants dans les expositions, et sans parler de la peinture murale à six mains entre Philippe de Crozat et Scott King et
James Fay.
Voilà. Et qui forme un lien d'ailleurs magnifique entre les deux étages, puisque il y a aussi un continuum, et c'est aussi un télescopage historique entre la culture underground punk et une peinture géométrique abstrait murale, plus héritée de Sol Lewitt que de Sid Vicious. Mais c'est vrai que ça marche très très bien formellement, et ça forme un lien superbe, je trouve. On rentre dans au premier étage, il y a cette musique très entêtante et très, très méditative de Satie. Et après, on se retrouve plongé dans la culture anglaise des années 70-80. C'est, je trouve,
complètement
pop underground.
C'est vrai que ce côté pop, on le retrouve dans votre
travail. Ouais, voilà.
Il y a un côté néo-pop. C'est vrai que
il est plus
distorsion, elle est là.
Ouais, voilà.
Et le titre se retrouve à tous les niveaux, que ce soit continuum, distorsion.
Ouais.
Et c'est vrai que pour moi, si j'ai beaucoup aimé votre peinture ou ta peinture, c'est vrai que j'en passe du vous au tu.
Ça serait mieux.
C'est vrai que c'était aussi cette liberté, et c'est vrai que dans le geste de peindre, je ressentais aussi un acte qui allait plus loin que simplement la volonté de transmettre je sais pas, une théorie des couleurs, ou simplement il y a quelque chose qui va au-delà de ça, une sensibilité qui est là pour décrire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond.
Mais j'ai le sentiment que dans toute forme d'art, il y a une chose qui est au-delà de la sensibilité, qui semble avoir pris beaucoup de place dans pas mal de pratiques. Et je trouve, pourquoi pas, mais je trouve que dans toute forme d'art, une approche, montrer qu'il n'y a pas d'amnésie dans le regard qu'on peut porter sur un médium. C'est pour ça que moi je m'attache toujours au tableau, c'est-à-dire au tableau, à l'espace de la fenêtre, au rectangle. Je trouve que c'est très important parce que c'est un garde-fou. Et j'ai besoin de ça dans ma pratique, de rester dans cet espace-là. Mais par contre, il y a aussi une approche conceptuelle grande, on s'en rend compte, j'espère, dans l'exposition, par rapport au déclinement des typologies et à la présence des participations collaboratives, j'ai envie de dire, parce que Bruno Di Rosa comme Robert Suermont, comme Michel François, leurs interventions, sans être des illustrations une seconde du projet, accompagnent et sont à mon sens des révélateurs de sens et en même temps des ouvertures, c'est-à-dire que ça révèle et ça ouvre d'autres fenêtres que les fenêtres des tableaux, que les fenêtres que sont les tableaux dans l'acception historique qu'on peut avoir de la peinture depuis la moitié du 19e siècle, quoi. Ou même non, depuis la Renaissance. Allez, remontons plus haut, parce que la distorsion, voilà, cette idée de... En fait, il y a aussi une chose, même si l'arrivée à Rome, en allant entraîner dans les musées de Rome, où il y a une grande présence de Fontana, et c'est bien logique, puisque c'est certainement un des peintres, un des artistes les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle dans le monde, et en Italie certainement. Et c'est vrai que lui parle de concept d'espace, et je trouvais que c'était... formidable, cette idée de concept d'espace, de fendre un tableau et de dire voilà, c'est un concept d'espace qu'il a décliné de façon magnifique, et en même temps c'est un peu court dans la mesure où toute œuvre se décline dans l'espace, mais se décline aussi dans le temps, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, c'est-à-dire que les peintures ne ne tombent pas du ciel, elles sont liées à une histoire collective, et je crois que c'est intéressant d'aller fouiller dans cette histoire de l'art et d'essayer de revisiter les moments de l'histoire de l'art, ce qu'ont fait tous les artistes. Je veux dire, Picasso s'est intéressé au Ménine de Velázquez, à Manet, à l'Olympia de Manet. L'Olympia de Manet est déjà une revisite de l'odalisque de Ingres, qui était elle-même une manière de s'approprier Titien avec la Vénus d'Urbino. Donc on peut aller loin comme ça. C'est l'histoire de la peinture, c'est ça. Mais en même temps, à chaque fois, Ingres, quand il revisite la Vénus d'Urbino, il amène une chose nouvelle et une distorsion par rapport à la vision qu'il pouvait avoir de ce canon Renaissance. Et la suite, et l'Olympia, on sait aussi le scandale qu'elle a produit, etc. Donc ce qui est drôle, c'est que quand les artistes revisitent des canons esthétiques, avec leur regard et avec leur approche contemporaine, crée le scandale. Et je trouve que c'est assez saugrenu, alors que c'est un médium tellement emprunté, tellement on pourrait imaginer galvauder la peinture. Mais je crois pas, parce que justement on voit à quel point elle peut encore générer des réactions épidermiques profondes, parce que tout le monde croit savoir ce que c'est que la peinture, et en fait personne ne sait ce que c'est, puisque elle se réinvente en permanence avec tous les gens qui l'utilisent, quoi.
Et je crois qu'avec cette exposition, c'est vrai que ça soit la cage d'escalier avec De Crozat, King et Fry, et ici tous les artistes que tu as invités, je crois que là c'est aussi une preuve qu'il y a encore beaucoup de choses à réinventer et à se réapproprier pour effectivement donner une nouvelle vision de ce monde. Et en tout cas, je pense que c'était
pas
de la
figé.
Volonté. Oui. Effectivement, c'était un peu la volonté de cette exposition, et j'espère qu'on arrivera à le faire partager au public.
Voilà.
On le verra.
Rappeler que la peinture, c'est pas une langue morte, quoi.
Voilà, tout à fait. Et là, on a Bruno Di Rosa qui parle avec une langue qui
est bien vivante.
Une des langues les plus bien maniées,
ouais.
La langue française.
Ouais.
Voilà. En tout cas, je te remercie.
C'est moi qui te remercie, Sarah.
C'est vraiment,
et puis voilà, on va pas faire comme à la télé, on va se tutoyer. Hein.
On va se tutoyer, et puis...
parce qu'on le fait par ailleurs.
Comme on le fait d'habitude.
Ouais.
Et donc on va ouvrir cette exposition. Et
voilà.
En tout cas, je te souhaite une très belle continuation, et je suis sûre qu'il va y avoir encore une très très belle évolution dans ton travail.
Ben,
il y a
c'est
beaucoup
le malheur
de choses
que
qui
je
se
me
passent.
Souhaite.
C'est tout le malheur qu'on peut te souhaiter. Et tout le bonheur également.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Merci.
À très bientôt.